VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Les élections présidentielles et législatives au Ghana auront lieu le 7 décembre, a annoncé aujourd'hui la commission électorale après le rejet par le Parlement d'un amendement proposant d'avancer d'un mois la date des scrutins. Le processus de réinscription sur les listes a commencé cette semaine et le directeur de la commission électorale, Samuel Tetteh, a assuré que tout serait prêt pour les scrutins, quelle que soit la date retenue en novembre ou en décembre. Le président ghanéen, le président sortant John Dramani Mahama, leader du Congrès démocratique national, est candidat à un second mandat de 5 ans face au leader de l'opposition, Nana Akufo-Addo, du nouveau parti patriotique, le NPP, qu'il avait battu en 2012. Le président sud-soudanais Salva Kiir a appelé hier son rival, le vice-président Riek Machar, à rentrer dans la capitale Juba, qu'il avait fui après de violents combats entre leurs troupes respectives pour relancer le processus de paix. John Lyndon.
J'appelle Riek Machar à rentrer à Juba pour que nous puissions poursuivre la mise en œuvre de l'accord de paix. Comme vous le savez, cet accord a besoin de nous deux pour être appliqué, a déclaré Salva Kiir dans un communiqué lu à la presse. Il a répété être à 100% déterminé à assurer la sécurité de Riek Machar à Juba et a dit attendre une réponse dans les 48 heures. Riek Machar a quitté Juba après les combats meurtriers qui ont opposé du 8 au 11 juillet ses troupes à celles de Salva Kiir. Ces violences ont fait au moins 300 morts et ont mis en péril le fragile accord de paix conclu en août 2015 pour mettre un terme à une guerre civile débutée en décembre 2013. Avec cet appel, le président Salva Kiir paraît déterminé à capitaliser sur l'absence de Riek Machar et sur les fissures qui ont commencé à apparaître dans les rangs de l'ex-chef rebelle.
Et l'ex-rébellion au Soudan du Sud a réaffirmé sa confiance en son chef, le vice-président Riek Machar, très discret depuis sa fuite de Juba lors des combats. Alors que le gouvernement cherche à entretenir la division à son sein, l'ex-rébellion soupçonne en effet le président Salva Kiir de vouloir se trouver un nouvel interlocuteur et de chercher à remplacer M. Machar par Taban Deng Gai, le ministre des Mines, issu de ses rangs dans le gouvernement d'Union nationale. Le président Kiir et son entourage sont frénétiquement occupés à essayer d'imposer Taban Deng Gai en remplacement de Riek Machar, a-t-elle dénoncé. Alors que le Mali rendait jeudi hommage à 17 de ses soldats tués à Nampala, dans une des récentes attaques dans la zone, des combats ont opposé à Kidal, un groupe pro-gouvernemental, et l'ex-rébellion marquant un regain de violence dans ce pays. Les combats violents ont été confirmés dans un communiqué par la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, présente à Kidal, qui n'identifie cependant pas précisément les mouvements concernés, indiquant simplement que tous sont signataires en mai 2015 d'un accord de paix avec Bamako. Pour un témoignage, Idriss Fall a joint à Kidal Amberi Agrissa, un notable Touareg et responsable au sein de la CEMA.
Il y avait des tensions qui grandissaient, qui évoluaient de mal en pis. Il y a un élément de la CEMA qui a été abattu par des éléments d'Atia. Ça a fait monter la tension. On pensait qu'on était sur la voie de l'apaisement. Tout d'un coup, dans cet après-midi, des tirs ont éclaté dans la ville. Au moment où vous me parlez, les combats n'ont pas cessé, même si l'intensité des tirs a baissé.
Al-Gabasak Intalla et le général Gambou avaient conclu un accord dimanche dernier à Niamey, non?
Oui, alors Bass et d'autres compagnons venaient juste de nous faire le compte-rendu de la réunion de Niamey. On venait de cette réunion-là. Quelques temps après, les tirs ont éclaté dans la ville.
Est-ce que ça signifie que cet accord il est devenu caduque ou bien?
Bon, quand il y a des tirs mûris comme ça pendant près de 2 heures de temps, je ne peux pas savoir qu'est-ce qui peut valoir encore un tel accord.
Amberi Agrissa, un notable Touareg et responsable au sein de la CEMA à Kidal. Réchauffement entre le Tchad et Israël. Un haut diplomate israélien a récemment rencontré le président tchadien. Première rencontre de haut niveau entre les deux pays depuis plus de 40 ans, a annoncé aujourd'hui un porte-parole israélien. Il a précisé qu'il ne s'agissait pas à ce stade de discussion sur un éventuel rétablissement de leurs relations diplomatiques rompues par le Tchad en 1972.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les 15 ambassadeurs du Conseil de sécurité ont commencé hier le long et laborieux processus de sélection du successeur de Ban Ki-moon à la tête des Nations Unies, Azumba Compaoré.
Ce premier vote à huis clos et à bulletin secret
sera suivi de nombreux autres pour départager 12 candidats, dont 6 femmes et 6 hommes. Parmi les figures de proue, la néo-zélandaise Hélène Clark, Susana Malcora, ministre argentine des Affaires étrangères, l'ex-président slovène Danilo Turk et le portugais Antonio Guterres, ancien patron du HCR. L'ambassadrice américaine Samantha Power a dressé un portrait robot parlant de quelqu'un doté de grandes qualités de dirigeant, d'une grande compétence de gestionnaire, attaché à la justice et aux principes des Nations Unies. L'ambassadeur français François Delattre a comparé cette sélection à celle du pape, la fumée noire et blanche en moins. Son homologue britannique, Matthew Rycroft, a plaidé pour un secrétaire général fort. Selon lui, il est grand temps pour une femme d'accéder à ce poste, en précisant que l'origine géographique est le critère le moins important. Le suspense peut durer jusqu'en octobre. Le choix final sera entériné par l'Assemblée générale de l'ONU et celui ou celle qui va succéder à Ban Ki-moon prendra fonction en janvier prochain.
Ici aux États-Unis, le républicain Donald Trump a engagé un virage sécuritaire dans la campagne présidentielle américaine pour tenter de remonter son retard contre la démocrate Hillary Clinton, associée au bilan des années Obama. Envoyé spécial à Cleveland, à la convention républicaine, Idrissa Seydoudia.
Friends, delegates and fellow Americans, I humbly and gratefully accept your nomination.
Donald Trump, disant aux délégués à la convention du Parti républicain qu'il acceptait avec humilité et gratitude leur nomination pour la présidence des États-Unis. Il a ensuite prononcé un discours axé sur la sécurité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des États-Unis, en se fondant sur de récentes attaques terroristes et actes de violence.
I have a message for all of you.
J'ai un message pour vous tous. La criminalité et la violence qui affligent aujourd'hui notre pays prendront bientôt fin. À partir du 20 janvier 2017, la sécurité sera restaurée. Monsieur Trump a ensuite cité des statistiques montrant, selon lui, la détérioration de la situation sécuritaire à travers le pays et il s'est autoproclamé le candidat de la loi et de l'ordre. Il a parlé d'une augmentation de 17% des homicides dans les 50 plus grandes villes des États-Unis et une augmentation de presque 50% du nombre de membres des forces de l'ordre tués par rapport à l'année dernière. Il a cité le meurtre de policiers à Dallas, Bâton Rouge et dans d'autres parties du pays, ainsi que les actes terroristes à Orlando et San Bernardino, contre le marathon de Boston et un centre de recrutement de l'armée à Chattanooga, dans le Tennessee. Donald Trump a de nouveau dénoncé l'immigration illégale, soulignant qu'environ 180 000 clandestins avec des antécédents criminels, dont l'expulsion a été ordonnée, sillonnent en toute liberté le pays pour menacer des citoyens pacifiques. Il va construire son mur à la frontière, selon lui. En conclusion, le candidat républicain a encore promis:
We will make America proud again.
Nous restituerons à l'Amérique sa fierté, nous restituerons à l'Amérique sa sécurité et nous restituerons à l'Amérique sa grandeur.
God bless you and good night. I love you.
C'était Idrissa Seydoudia à Cleveland, dans l'Ohio.
Merci Idrissa. Près de 40 soldats syriens et combattants pro-régime ont péri jeudi quand les rebelles ont fait exploser un tunnel à Alep, dans le nord. C'est ce que rapporte aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les insurgés ont creusé ce tunnel en dessous d'une position du régime dans le vieil Alep et l'ont fait exploser, provoquant l'effondrement de l'immeuble et tuant au moins 38 de ses combattants, indiqué à l'AFP Rami Abdelrahman, le directeur de l'OSDH. Et puis, des militants sud-coréens et américains ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient envoyé par-delà la frontière des centaines de milliers de tracts critiquant le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et les derniers essais de missiles menés par Pyongyang. Ce lâcher de tracts, mené jeudi soir au moyen de 10 gros ballons, survient alors que les tensions frontalières redoublent. Voilà, c'est la fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes avec Harry Francisque. Bon après-midi et bon week-end sur La Voix de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.